Je suis zen. Cette émission s'annonce beaucoup moins tendue que celle d'hier qui était consacrée, je le rappelle, à la chasse. Merci au passage, chers auditeurs, pour vos très nombreux messages. Que vous soyez furieux contre les chasseurs ou contre ceux qui ne veulent plus voir de fusils dans les campagnes, vous nous avez écrit en masse, impossible de répondre à tout le monde. Aujourd'hui, on parle d'amour. Bien sûr que ce sera plus calme, mais il y a un lien à faire, si si, avec la chasse. À la fin du 19e siècle, quand le chasseur français a publié ses premières petites annonces matrimoniales, on a crié au scandale. Comment ce magazine osait-il faire du mariage un business lucratif? Aujourd'hui, Tinder, Happn, Adopte un mec et les autres sont accusés de transformer nos vies amoureuses et sexuelles en un zapping consumériste. Les premiers sites de rencontres sont apparus en France à la fin des années 90. On a donc un recul de 20 ans à présent pour interroger l'amour au temps du numérique. J'attends vos anecdotes, chers auditeurs. Il faudra aussi se poser la question des données personnelles, ô combien personnelles, qu'on offre sur un plateau aux applications de rencontres. L'amour était-il mieux avant le numérique? C'est la question qu'on se met sous la dent jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Dorothée Barba sur France Inter.
Avec quatre invités en direct en studio. Bonjour René Grezard.
Bonjour.
Je vis dans un film de Jacques Demy. C'est comme ça que vous vous présentez sur Twitter. J'adore cette biographie. Vous êtes journaliste à Rue 89 et à l'Obs. Vous êtes une observatrice aguerrie de l'amour 2.0 puisque vous tenez la rubrique Tinder Surprise. À lire donc sur le site de l'Obs. Des anonymes y racontent leurs meilleurs dates, mais aussi les plus gênants, les plus drôles, les plus romantiques. Et j'en passe. Il y a de la matière. À vos côtés, Clément Bénèche. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain. Votre dernier ouvrage, Une essentielle fragilité, est un essai sur la place du roman à l'ère de l'image. Et vous avez aussi publié en 2017 chez Flammarion Amour espion, un roman dont Tinder est un élément central. Tentative de réhabilitation poétique de la modernité, a-t-on pu lire à l'époque dans la revue des Deux Mondes. Clara Drenaïchmel, qui est là également. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue, philosophe et journaliste, notamment pour Meta Média France Télévisions. Vous nous raconterez notamment comment vous avez créé plusieurs profils sur différents sites de rencontres pour en raconter les coulisses et le fonctionnement qui ne vous séduit pas toujours d'ailleurs.
Il y a des nuances à établir, mais globalement, je suis assez réservée. Par rapport au risque qu'elle comporte.
Exactement. Et mon quatrième invité est le patron d'une application de rencontre. Bonjour Didier Rapaport.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue sur France Inter. Vous êtes le président fondateur de l'appli Happn. Combien de couples avez-vous créé?
Alors, difficile de savoir le nombre de couples, mais nous avons des milliers de témoignages, voire des dizaines de milliers de témoignages de gens qui se sont rencontrés sur Happn et
c'est
qui
pas possible
se sont
à compter.
Non, impossible.
Ça, c'est pas chouette pour le marketing.
Bah oui, mais impossible.
La particularité d'Happn, vous me dites si je me trompe, c'est de s'appuyer encore plus que les autres sur la géolocalisation. Les utilisateurs peuvent matcher avec des gens autour d'eux, notamment dans un restaurant, dans un bar ou dans la rue ou dans le bus.
Absolument, on a voulu remettre de la vraie vie dans le monde de la rencontre, et on s'est posé la question, pourquoi devrait-on aller en ligne pour rencontrer des nouvelles personnes quand on en croise tellement dans sa vraie vie?
Est-ce que vous diriez, Didier Rapaport, que le dating s'est normalisé aujourd'hui, que ce n'est plus honteux du tout de rencontrer l'amour sur Internet?
C'est complètement déculpabilisé, et aujourd'hui, on dit très facilement qu'on a rencontré, d'ailleurs c'est l'immense majorité des gens maintenant, c'est plus de 50% des couples qui se font en ligne, donc c'est un usage normalisé. Oui.
Attention, on entre dans le débat, René Grezard n'est pas d'accord du tout.
Alors, c'est pas les chiffres que j'ai, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus.
Et ce qui est L'INED, notamment.
L'INED notamment. Et donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a une personne sur quatre qui a déjà utilisé ce genre de dispositif. Mais ensuite, il y a un peu moins de 9% des couples qui se sont déjà rencontrés grâce à un site de rencontre. Et les lieux, en fait, on a une image un peu, fausse des sites de rencontre. On pense que tout le monde se rencontre aujourd'hui sur les sites de rencontre.
Ça reste la cinquième manière de se rencontrer.
C'est la cinquième manière de se rencontrer. On a d'abord le lieu de travail, le lieu d'études, les soirées, aller chez un ami. Et derrière tout ça, arrive en cinquième position, donc, les sites de rencontre. Mais donc, du coup.
Voilà. Et puis, des personnes peuvent être des utilisateurs des sites de rencontre et rencontrer l'amour par ailleurs.
Voilà, la vraie vie. Exactement. Et les internets peuvent se mélanger. Un mot sur la déringardisation. Est-ce que vous pensez qu'il reste des gens quand même pour penser que si tu t'inscris sur un site, c'est que tu n'y arrives pas dans la vraie vie?
Bien sûr, oui, bien sûr. En fait, ça
dépend. Donc ça reste parfois un peu sulfureux ou mal vu.
Ça dépend des milieux, en fait. Mmh. Ça dépend d'où on habite, si on est en région, si on est à Paris, de quel où on est, en fait, tout simplement. Quoi. Il y a des gens pour qui c'est encore un peu gênant, notamment des gens plus âgés. Dans notre génération de millennials, c'est complètement normal d'être sur trois applis en même temps. Pour des gens qui ont 60 ans, c'est un peu un pas à franchir. Ça dépend, en fait, des milieux. Il y a des gens pour qui c'est normal aussi, et d'autres...
Clément Bénèche, c'est ringard ou c'est normal?
Je trouve pas ça totalement déculpabilisé, à plus forte raison dans ma génération. J'ai l'impression qu'il y a, il y a aussi un
sursaut. Vous avez moins de 30 ans,
Moi, j'ai 28 ans. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'il y a une demande morale qui est quand même...
Une demande morale.
Une espèce de renaissance de ce sentiment qu'on fait pas exactement ce qu'il faut en étant sur ces applications. Moi, j'ai, dans mes proches, il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il y a quelque chose d'un peu douteux à être là-dessus. Donc, totalement déculpabilisé, je dirais pas ça.
Allez, mais on entre. C'est vrai que c'est démocratique. On entre dans le détail dans un instant. Un peu de musique d'abord. Émission préparée par Anna Massardi, réalisée par Lola Costantini. Pierre-Yves Derolin et Rémi Sistiaga sont à la technique. La programmation musicale du débat de midi est signée Jean-Baptiste Audibert. If you call me, I'll come running. Can call me anytime. And these 16 strings were strumming. They will back up every line. There's a motivation about you that moves me when we're apart. It agitates my affection.
That I feel you, but it's a sensitive device, a reverential when I hear you, a genuflect to your advice. Well, I wish I had the words, and I want those words to rhyme, and I wish I. I sure don't have the time. Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Brother, can you spare the time?
Help me, stranger, c'était The Raconteurs sur France Inter.
Le débat de midi, Dorothée Barba.
Il est mignon.
Ouais, il est mignon, mais je suis un peu déçue parce que je lui ai envoyé un message ravi de te connaître et il m'a rien répondu.
Ah ouais? Et il l'a vu?
Bah, il l'a vu hier à 18h09.
Ah ouais, quand même. Ah, elle est peut-être occupée, hein.
Bah, c'est écrit connecté.
Relance la machine, peut-être. On dirait que le plaisir n'est pas partagé. Lol. Vu.
Ah oui, mais réponds!
Attends, bah, il faut qu'il trouve un truc aussi percutant.
Regarde comme il était mignon, même il y a 5 ans.
T'as qu'à liker. Like la photo.
Ok.
Like.
Ok.
Like.
Like.
Like! Bon, t'as liké toutes ces photos. Tu le connais depuis hier?
Ouais. Oh, vous ne pouvez pas participer à cette conversation.
Il t'a bloqué?
un extrait de la série CamWeb, web-série qui illustre à merveille ce qu'on appelle le stalking, espionnage numérique. Voilà comment on pourrait le traduire, cette manière qu'on a d'espionner les gens avant de les rencontrer. Voilà sans doute l'une des choses majeures qui a changé, Clara Doyen-Hachmelk, avec le numérique. Ça piétine le mystère.
Effectivement, et vous n'êtes même plus envisagé, vous êtes dévisagé. Avant même qu'une relation se crée, on va vérifier votre profil, votre dossier. C'est pas vie à crédit, c'est vie sur dossier. Mmh. Est-ce que vous êtes solvable? Est-ce que vos mensurations sont recevables pour un premier examen d'entrée, en quelque sorte?
Et d'ailleurs, beaucoup ont l'impression, en se rendant à un date, à un premier rendez-vous amoureux, d'aller à un entretien d'embauche de l'amour.
Alors, c'était marrant parce que j'ai déjà assisté participé à des entretiens d'embauche où j'avais vu à côté des dates qui se passaient de manière beaucoup plus tendue et angoissante pour les deux que l'entretien d'embauche qui se passait avec moi.
Didier Rapaport voulait défendre Appen sur ce terrain-là. C'est administratif, c'est tendu,
c'est bureaucratique.
Non,
bureaucratique.
Non, pas nécessairement. Je veux dire, le numérique a changé la manière de se rencontrer, mais on a le moyen d'échanger un petit peu par texte avant de se rencontrer. Et en fait, on a la rencontre qu'on mérite. Je veux dire, je connais des gens qui ont eu des rencontres extrêmement agréables, des moments d'ouverture, des amitiés qui se sont créées. Alors, il est de bon ton de cracher sur le numérique et de cracher sur les applications de rencontres, mais il y a beaucoup de belles expériences, il y a beaucoup de gens heureux, il y a beaucoup de témoignages, de belles aventures.
C'est intéressant ce que vous dites, il est de bon ton de critiquer. C'est effectivement un jeu très répandu, c'est un jeu de notre époque, Clément Bénèche. Est-ce que ça prouve qu'on a besoin de romantisme, qu'on a encore envie de romantisme?
Bah, c'est amusant parce que moi, quand j'ai écrit ce roman que vous avez cité, Un amour d'espion, ce qui m'intéressait, c'était justement de montrer que Tinder pouvait éventuellement être romantique. Et mon postulat, c'était que si on considérait que ça ne l'était pas, c'est parce que Tinder ne se trouvait pas dans les romans. Et donc mon idée.
Vous avez corrigé cette erreur.
J'ai essayé. J'ai essayé. Néanmoins, on peut quand même se rendre compte que toute l'histoire du romantisme et des histoires d'amour, c'est quand même une histoire du temps long. De la latence, des errances. Là, j'ai lu il n'y a pas longtemps un roman qui s'appelle L'Astrée d'Honoré d'Urfé, qui est un grand roman d'amour. C'est un roman d'une longueur absolue ou d'une langueur aussi absolue. Et Tinder, on peut pas s'empêcher, et les applis de rencontre, on ne peut pas s'empêcher de remarquer que elles ont tendance à couper ces latences.
On peut discuter très longtemps avant de se rencontrer en vrai. IRL, dans la vraie vie, comme disent les geeks.
Oui, je ne pense pas que ce soit le mode le plus naturel, mais c'est vrai.
René Grosard.
Oui, j'ai encore eu une histoire qui est partie de 2013 jusqu'à 2017. Ça n'a pas donné grand-chose, mais...
C'est-à-dire des gens qui ont discuté en ligne pendant 4 ans avant de se voir?
Oui, qui sont vus, qui ne sont pas vus. Enfin, en fait, elle existe aussi sur cette latence. Et puis alors moi, il y a quelque chose que j'aimerais bien dire, c'est que on a tendance à faire comme si la vie réelle, c'était le romantisme. Mais il faut quand même reposer des bases sociologiques.
Allez-y, posez-les. Voilà.
Désolée pour les gens qui croient beaucoup au coup de foudre, et voilà, mais... ça n'existe pas. Enfin, ou alors ça existe, mais disons qu'il y a quand même des biais sociologiques.
Il y a moins de probabilités, c'est vrai.
Bah, disons qu'en fait, quand on rencontre quelqu'un déjà dans un bar, on sait instantanément s'il est du même milieu que nous. Et en fait, on se reconnaît, on s'observe. Et en fait, ce que disent les sociologues, notamment Michel Bozon et François Héran, et ça, ils l'écrivent en 1987, hein, donc on est
bien en avant les applis.
Ils disent que les couples ne sont pas formés au hasard. Leur répartition en fonction des origines sociales suit toujours une logique fortement homogame. La foudre, quand elle tombe, ne tombe pas n'importe où, elle frappe avec prédilection la diagonale. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des coups de foudre, mais ça tombe quand même bien en diagonale.
Il y a déjà des affinités électives avant même que les algorithmes s'en soient chargés.
Exactement.
Ça c'est vrai, on ne peut pas imputer aux plateformes le grief d'organiser des rencontres qui dans le réel auraient été beaucoup plus spontanées et hasardeuses.
Il n'y avait pas un peu plus de hasard avant l'existence de ces applications?
La différence à mon avis, il y avait peut-être en termes de probabilité un peu plus de hasard, mais surtout on acceptait peut-être davantage le hasard. Aujourd'hui en fait j'ai l'impression que les plateformes ont infusé dans nos structures mentales l'idée que le hasard n'avait pas sa place. On a l'impression qu'il faut qu'on décide de tout.
Le hasard est au centre. Le hasard est au centre d'Appen, puisque lorsque vous ouvrez l'application Appen, vous voyez les gens qui sont maintenant autour de vous. En fait, nous, on croit que l'amour est imprédictible. On ne croit pas aux algorithmes de matchmaking, même si...
Oui, c'est la différence de Tinder.
D'Appen avec les autres.
Et justement, au contraire, on voit même, et il y a eu des études qui l'ont montré, que les couples qui se forment sur les plateformes en ligne sont des couples beaucoup plus ouverts que dans la vraie vie. Sur une application de rencontre, vous avez de multiples possibilités et opportunités. Et si on pouvait mettre quelques algorithmes pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des correspondances entre les gens, nous, on rewarderait le hasard. Et
si vous pouviez accentuer le hasard, vous le feriez, c'est ce que vous dites.
Ça fait partie même de nos intentions. Parce que, justement, l'amour n'est pas prédictible.
Alors, pour parler des autres applis, hein, Tinder, par exemple, Mythic ou les autres, c'est ce que vous leur reprochez, Didier Rapoport, de moins fonctionner sur le hasard et de mettre entre eux, pour le dire rapidement, les moches avec les moches, les beaux avec les beaux et les riches avec les riches.
Je ne sais pas si c'est aussi caricatural bien que sûr. Cela, mais moi je pense que la technologie, moi je suis un partisan de la technologie for good. Je pense qu'avec la technologie, on peut aider les gens. Or, quand on rencontre des gens célibataires et qu'on leur demande « mais pourquoi es-tu célibataire ?» parce que dans beaucoup de personnes, il y a ce désir d'aimer, ils répondent tous sans exception « dans tous les pays du monde, parce que c'est difficile. Eh bien, les applications de rencontre, elles font quoi dans un monde moderne? Elles permettent aux gens de se rencontrer. Et je trouve que c'est juste incroyable. Je prends l'exemple, on parlait de génération. Moi, je suis étonné de voir les gens au-dessus de 40 ans qui sont sur des applications de rencontre. Et je trouve ça génial, parce que quand aujourd'hui, vous êtes une femme de 40 ans, souvent dans une deuxième vie, divorcée, qui travaille la journée, qui rentre le soir et qui a des enfants à s'occuper. Eh bien, si elle n'avait pas des apps de
rencontre
pour découvrir des personnes qu'elle ne connaît pas, sa vie serait beaucoup plus compliquée.
Alors, puisqu'on parle de génération, je crois, Clara Doyen-Hachmel, que ce qui vous inquiète le plus dans ces applications, ces plateformes, ce sont les premières amours, les plus jeunes. Est-ce que vous avez l'impression que ça va créer un biais dans la fabrication de la vie amoureuse?
C'est un risque. C'est pas une affirmation, c'est une hypothèse, c'est un risque parce que vous pouvez être conditionné par certaines rencontres que vous avez faites sur Tinder, je pensais plus à Tinder ou à Adopte un mec, qui peuvent parfois, varier selon votre milieu. Imaginez que vous soyez dans une zone, pas comme à Paris où on peut sortir, on peut multiplier les rencontres en s'amusant, il y a un aspect beaucoup plus ludique. Imaginez que vous soyez dans une zone où les rencontres vont être plus abruptes. Parfois on parle de gérer un plan cul qu'on va cadrer. Ça, j'ai déjà entendu ça quand j'avais voulu me grimer en utilisatrice. Traduction, en fait, c'est on va se rencontrer, il va y avoir un acte assez bref et ce sera terminé. Et ça, c'est bon, c'est quand même un peu comme dans le poème d'Aragon, Lola. C'est la chose la plus triste, la plus inhumaine.
Pourquoi c'est triste
ouais. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune amitié qui se développe. Donc si vous faites ça pendant 20... Non, bah si, dans ce cas, oui, dans ce cas. Si vous faites ça, si votre jeunesse est marquée par ça, vous allez dire, bon, l'amour ne peut pas avoir lieu, il ne peut pas y avoir de rencontre.
C'est un reproche récurrent, hein, que les applications favorisent la sexualité au détriment des sentiments, René Grosard.
Des sentiments, alors, tout simplement, de se connaître l'un et l'autre.
Pas forcément, enfin c'est une probabilité qui montre qu'en fait la sexualité, qu'il y a une sociologue qui montre que la sexualité est pas forcément plus dévergondée avec les applis. Les applis ne changent pas l'amour, puisque comme je disais tout à l'heure, enfin ça modifie en fait l'approche, c'est-à-dire que au lieu de juger quelqu'un sur ses jeans et son basket, ses baskets plutôt, et son jean et son sourire, on va le juger à sa façon de se présenter, et voilà. Mais par ailleurs, c'est vrai que en fait, ce qu'il y a sur les applis, c'est qu'on est quand même dans un supermarché. Ça, on peut le reconnaître. Et dans ce supermarché,
une approche consumériste.
Il y a une approche consumériste.
C'est comme si on se faisait livrer une pizza, en fait. Je commande une personne, elle est blonde, machin.
Mais pour autant, on peut avoir une vision peut-être un peu moins caricaturale de ça et se dire que certaines personnes viennent chercher quelque chose, d'autres viennent chercher quelque chose d'autre, et que si tout le monde est entre adultes consentants, je vois pas le problème de mon côté, en fait.
L'avantage dans ce que vous dites, c'est qu'au moins il y a moins de malentendus. On sait pourquoi on est là.
Alors, c'est pas si simple que ça, parce que le problème, c'est que donc là tout à l'heure j'ai parlé de la dimension sociologique, mais il y a aussi une dimension psychologique, c'est-à-dire que on arrive tous avec son petit sac à dos de petites névroses, et en fait, on fait face à quelqu'un d'autre qui a aussi son petit sac à dos de névroses, et donc en fait le problème, c'est que moi je pense souvent à Maxence, le héros des Demoiselles de Rochefort, parce que comme vous le disiez, je vis dans un film de Jacques Demy.
Alors,
et Maxence, il chante qu'il cherche son idéal féminin, je l'ai cherché partout, j'ai fait le tour du monde. Voilà. Maxence, en fait, c'est tout le monde sur les applis. Les gens sont là en train de chercher leur idéal féminin, leur idéal masculin. Et le problème, c'est qu'en fait, on n'est pas au supermarché en train de chercher une boîte de conserve. On a quelqu'un avec, effectivement, son histoire familiale, son milieu, ses failles, ses secrets. Et donc, en fait, quand il y a un frottement, il se fait, je pense, à ce niveau-là, c'est-à-dire entre l'attente et le réel, c'est-à-dire ce que j'attends, ce que je désire, mon idéal féminin. Maxence et Catherine Deneuve. et la réalité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas l'idéal féminin, ça n'existe pas.
L'aspect consumériste, il est accentué par le swipe. Il faut peut-être traduire pour ceux qui n'utilisent pas les applis cette manière qu'on a de balayer les profils des uns et des autres.
Sinon, dans la vraie vie, il existe aussi. Oui. Il faut pas non plus se faire d'illusions. Mais par contre, le swipe multiplie la fréquence et surtout modifie le comportement. Parce que dès que vous avez vous ennuyez un peu, vous swipez.
Clément Bénèche, Roxane et Cyrano auraient-ils pu matcher sur Tinder?
Je sais pas, ou alors il aurait fallu qu'il dissimule son nez de façon très habile.
Mais une photo de profil qui serait de face, déjà, c'est
une
bien.
Une photo de profil qui serait de face. Non, je crois qu'il y a quand même, de façon classique, on pourrait dire que la quantité change la qualité. C'est-à-dire que l'artifice de l'amour n'est pas d'hier. Quand je préparais mon roman, qui se passe donc à New York, j'ai fait des recherches sur la ville de New York, et notamment ce très beau livre de l'architecte Rem Koolhaas, qui s'appelle New York Délire, où il raconte que dès la fin du 19e, à Coney Island, il y avait cette espèce d'attraction qui s'appelait les tonneaux de l'amour, figurez-vous. Donc c'était des espèces de tonneaux de 2 mètres de haut qui tournaient sur eux-mêmes, et dans lequel un homme entrait par un côté, une femme de l'autre. Et en fait, le roulis du tonneau fait qu'on se retrouvait bien vite l'un sur l'autre. Et le but était de créer des rencontres comme ça. Donc c'est totalement artificiel. Oui. Néanmoins, on peut quand même se poser la question de se dire est-ce que les applis d'aujourd'hui, en industrialisant et en taylorisant ce côté artificiel, n'ont pas changé la nature de...
Et donc elles sont moins belles, ces rencontres arrangées?
Je ne crois pas, parce qu'effectivement, les rencontres dont on a parlé, les mariages qu'on voit autour de nous, plaident plutôt en la faveur de ces applications. Donc,
René Grezard.
Moi, de mon point de vue, des histoires que je récolte, je dirais que c'est ni moins beau, ni moins... Enfin, bien, enfin...
C'est différent.
Bah voilà, c'est un peu différent, on se rencontre différemment, mais c'est vrai qu'il y a des histoires qui sont super jolies. Moi j'ai je pense notamment à ce couple gay qui racontait qu'ils avaient décidé de se rencontrer mais de pas se parler. Donc ils se retrouvent au bar et en fait ils se parlent en s'échangeant des mots pendant, enfin en fait si on est créatif,
il y a une possibilité de moduler en fait le format très très limité de l'espace de communication du réseau.
Mais par contre, il y a autre chose, c'est que c'est pour ça qu'à la base, nous, on racontait surtout des histoires foireuses sur Tinder Surprise. C'est que quand on rencontre quelqu'un dans son lieu de travail, dans une soirée, en fait, on est aussi cadré par les autres. C'est-à-dire qu'on va pas faire n'importe quoi avec le pote de machine qui est sa meilleure pote. On va pas se comporter super mal. Ou la famille. On est obligé, on est tenu à une certaine séance. Voilà.
Et c'est le grand avantage, effectivement, des applications et des plateformes, c'est la discrétion. On peut chercher son partenaire ou sa partenaire à l'abri du regard des proches.
Mais c'est aussi le gros inconvénient, c'est que du coup, il y a toute une somme d'incivilités qui naissent, en fait, de cette discrétion. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans les histoires que j'ai eues, il y en a une que j'ai trouvée sidérante, c'était une jeune femme qui croise une copine dans la rue avec le type qu'elle est en train de dater. Et le type en profite pour se barrer en courant. Mais en fait, elle se retourne, il est en train de courir, il part. On ferait pas ça si on connaissait la personne par quelqu'un.
Donc, on est moins courtois, moins civil, diriez-vous.
La discrétion, ça a ses avantages et ses inconvénients.
Voilà. Didier Rapaport, la discrétion, voilà qui est important, effectivement. Est-ce que vous diriez que c'est l'une des grandes révolutions de l'amour numérique? Cette manière cette possibilité désormais de chercher son conjoint sans que les amis, la famille, les proches soient au courant?
Alors, il est vrai que dans le monde digital, et je l'ai remarqué dans plusieurs entreprises, les comportements sont modifiés parce que les gens, lorsqu'ils se retrouvent derrière un écran, s'imaginent qu'il y a plein de choses qui sont permises alors qu'elles ne le sont pas dans la vraie vie. Ils sont moins polissés. Alors, c'est vrai. Non mais
oui, ça j'ai pu le voir.
Vos utilisateurs sur Appen également.
Non, parce que sur Appen, on... Attendez. Je suis pas là. Vous êtes terrible. Hein. Vous êtes contre les applications.
Pas du tout.
Non, mais c'était drôle. En fait, un peu plus difficilement sur Appen que sur d'autres. Pourquoi? Parce que sur Appen, c'est quand même les gens qui sont autour de vous. Voilà. C'est-à-dire que si c'est des gens que vous avez croisés 50 fois, et ben le voisin qui habite à côté, vous allez peut-être vous conduire d'une manière plus polissée parce qu'il y a des risques que vous le revoyez dans la vraie vie. Donc c'est pour ça que j'ai répondu comme ça. Après, il y a aussi d'énormes avantages. Les avantages que je vois, par exemple, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont timides et c'est beaucoup plus facile de s'adresser à quelqu'un derrière un écran parce qu'on a le timide, il a peur de se prendre un vent, il a peur qu'on lui dise non. Mais là, c'est les applications lui permettent de s'exprimer.
Mais les applications, surtout, ont gommé le risque du râteau, parce qu'a priori, si on parle, c'est que vous m'avez matché et que je vous ai matché.
Complètement. Et ça joue énormément. Ça aide beaucoup de gens. Après, c'est vrai que... Et puis, le digital, ça crée pas la vulgarité. Non. Je veux dire, le digital, c'est le reflet de la vraie vie. Mm. Et les gens qui sont vulgaires dans la vraie vie, sont vulgaires dans le digital. Et les gens qui sont des gens bien dans la vraie vie, sont des gens bien dans le digital.
On reçoit énormément. Ça peut même servir de filtre. Vous rencontrez quelqu'un dans la vraie vie, vous le prenez sur Appen, et puis vous filtrez, et puis vous voyez s'il est vulgaire ou pas.
Ah, c'est intéressant. Ça.
Mais donc, complètement.
C'est par le filtre numérique. Mm. Vous l'avez déjà fait, ça?
Non. C'est, ça me vient à l'esprit.
Beaucoup de témoignages d'auditeurs et d'auditrices nous parviennent. Émilie nous écrit qu'elle a rencontré l'homme qui est devenu son mari il y a exactement 10 ans sur un site internet dédié à la rencontre amoureuse. Ce jour-là, je n'avais sélectionné que 2 profils auxquels j'avais adressé un message, dit-elle, et mon futur mari a été le seul à répondre. Nous habitions dans le même département avec pourtant aucune chance de se croiser. Internet et le destin numérique, conclut-elle, nous ont rapproché. Mathieu, j'ai rencontré mon ami sur Tinder il y a 3 ans. Nous avions 17 et 18 ans. Étant donné nos points d'intérêt et notre style de vie totalement différents, je n'aurais jamais pu rencontrer cette fille si cette application n'avait pas existé. Voilà, beaucoup de témoignages vont dans ce sens. Déborah nous écrit ceci par courriel, ça m'intéresse. J'ai l'impression que les premiers mots échangés définissent tout sur Tinder, et beaucoup plus que dans la vraie vie. Question à vos invités, écrit-elle, quelle est la meilleure accroche que vous ayez eue sur Tinder? René Grosard. Les mots, en effet, ont plus d'importance, vous diriez que...
Oui, c'est vrai.
Quand chéri en os.
Mais il y a des gens très malins. Je pense par exemple à ce garçon qui m'a écrit un jour... parce que moi, je suis sur les applis aussi pour le travail. Voilà. Il m'a écrit un jour...
ne vous justifie pas, je vous
dis. Non, mais bon, bref. Qui m'a écrit un jour... et si on passait les formalités, qu'on se voyait directement. Et en fait, c'était assez malin, je trouvais. Parce que du coup, il avait quelqu'un qui réagissait en face de lui, bien ou mal. Mais en fait, ça faisait un tri assez rapide. Et alors sinon, Tinder communique des chiffres qui disent notamment que envoyer un gif, ça donne plus de chances en fait de matcher.
Ah, c'est du coaching à ce niveau-là.
Oui, envoyer un gif. Dans leur conférence de presse de Saint-Valentin, justement, ils communiquaient ces chiffres. Ils disaient, bon, voilà la meilleure accroche, voilà.
C'est
pour
ça.
Vous êtes dur aussi.
Ils disent, sourire, 14% de chances de swipe en plus, avoir un portrait de
sourire sur la photo de profil.
Sur la photo de profil, avoir un portrait de face, 20% de chances de swipe en plus, porter des couleurs vives, ne pas porter de lunettes, moins 12% de match. Bon, ça, c'est un peu l'aspect.
Ça ressemble quand même aux leçons de maintien qu'on donnait aux jeunes filles.
Bien sûr, c'est un corset.
Didier Rapoport, vous avez l'air effondré par ces conseils statistiques.
Oui, c'est assez étonnant, mais non, il faut tout simplement.
D'abord,
il y a beaucoup de gens qui commencent un dialogue par "Hey". Bon. Ah. En fait, les gens savent pas commencer un dialogue. Et là, je pense que par exemple, l'intelligence artificielle. Je suis pas un grand fan. J'aime bien l'intelligence artificielle, mais avec des limites. Mais l'intelligence artificielle permettrait de conseiller nos utilisateurs sur commencer un dialogue.
De leur pré-rédiger des messages, par exemple.
Pas pré-rédiger, parce que ça, c'est franchement la case à cocher, je choisis celui-là plutôt que celui-là. Mais si je sais, par exemple, que la personne avec qui je commence à dialoguer aime la même musique que moi, je peux avoir un warning de l'application qui me dit « vous aimez la même musique ». Et c'est un moyen de commencer à discuter. Voilà, c'est un exemple.
On peut se rapprocher parce qu'on aime John Lennon, par exemple. Un homme jaloux s'annonce sur France Inter. Continuez à nous écrire, chers auditeurs, chères auditrices, pour nous raconter vos expériences d'amour numérique. Ça se passe sur franceinter.fr, à la page du débat de midi. Il est midi 34. I was dreaming of the past, and my heart. Control. I didn't mean
Fragment numérique du discours amoureux ce mercredi sur France Inter. Les écrans ont-ils chamboulé l'amour ?
Le débat du midi. Dorothée Barba sur France Inter.
Alors non pas que je veuille que ça s'engueule en studio, mais je suis fâchée parce que pendant la pause musicale, vous vous engueulez hors micro.
Moi je me suis pas engueulée.
Didier Rapaport,
le
patron d'Apple n'était pas content. Vous vivez dans un autre siècle, dites-vous à Clara dans Une Schmelk.
Oui, j'avais un peu l'impression à vous entendre parler de romantisme, que vous étiez plus à la fin du 19e, même pas au 20e.
À l'époque du chasseur français, des annonces matrimoniales.
Qu'au 21e, je veux dire aujourd'hui les codes ont changé. On parle plus que de mariage et hétéro, le romantisme existe toujours, il est poétique, et aujourd'hui les gens sont libres, aujourd'hui les gens sont heureux d'être célibataires, c'est ça qui a changé. Et à vous entendre, je sais pas, vous êtes d'un conformisme absolument incroyable.
Réagissez, Clément Bénèche.
Moi, je trouve que c'est vous qui êtes absolument conformiste. J'ai l'impression de lire un article de Combini. Enfin, franchement.
Et ça, c'est une insulte ?
Bah, disons que. Non, mais c'est en tout cas. Ce sont les idées qui gagnent aujourd'hui.
Personne ne conteste l'idée qu'être célibataire, c'est sympathique. Hein, c'est pas vraiment ça. Mais c'est qu'on s'interroge sur, en fait, le conditionnement d'une société à un amour qui serait réduit à un espace très limité et à des messages stéréotypés. Plutôt qu'une des aventures beaucoup plus spontanées et beaucoup plus hasardeuses.
Alors parlons de stéréotypes, justement, Didier Rapaport. Avez-vous l'impression que les stéréotypes de genre ont été gommés, atténués, ou au contraire sont toujours aussi présents sur les applications de rencontres, en comparaison, encore une fois, avec la vraie vie? C'est horrible, cette expression.
Bah, je pense qu'ils ont été atténués, parce qu'aujourd'hui... on ne se coche pas comme étant homme ou femme, mais on peut se cocher comme étant homme, femme, trans, communauté LGBT, lesbien, gay, etc. Et que aujourd'hui, il y a cette espèce, enfin, les codes ont énormément évolué en l'espace de 50 ans, et les applications de rencontre contribuent à faire que ces codes soient monnaie courante. Donc je trouve que il y a beaucoup plus d'ouverture, il y a beaucoup plus de vérité.
René Grezard, journaliste à Rue 89, les applis sont-elles sexistes ?
Alors, quand on parle de sexisme, on peut parler de plusieurs choses. Déjà, il faut quand même rappeler qu'il y a beaucoup plus d'hommes sur les applis que de femmes.
Souvent, c'est payant pour les hommes et pas
exactement.
Pour les femmes.
Exactement. Quand même, les chiffres, c'est 36% des hommes contre... qu'est-ce que je vous disais ? Des bêtises. Bref.
Non, c'est assez juste, en moyenne.
C'est ça, hein, voilà. Ouais. C'est 45% des hommes qui déclarent avoir... Pour payer, hein. 45% des hommes qui déclarent avoir déjà payé contre 18% des femmes. Mm-hmm. Et 36% d'hommes chez les 26-30 contre 23% qui sont présents sur les applis.
D'accord.
Donc, en fait, vous voyez la différence, il y a quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc ça crée quand même un marché, comme dans les boîtes de nuit quand on dit pas payant pour les femmes et payant pour les hommes.
C'est-à-dire que est-ce que c'est une manière de s'adapter à la réalité telle qu'elle est, ou une manière de reproduire des stéréotypes à votre avis ?
Mais en fait, c'est même pas une manière de reproduire des stéréotypes. Je crois que d'un point de vue démographique, il y a plus d'hommes célibataires, quoi, et que du coup, en fait, plus d'hommes sur les applis. Et voilà. Après, ce qu'il y a, c'est que il y a quand même la question. Judith Duportail, dans son livre L'amour sous algorithme, elle questionne en fait la question du sexisme, notamment parce que il y a ce brevet qu'elle a découvert avec une chercheuse et qui montre qu'en fait ils réfléchissent à un algorithme sur Tinder qui oriente les utilisateurs selon...
C'est ce qu'on appelle le Hello Score, hein, ce voilà. score, cette note ouais, de désirabilité la... qu'on Exactement. Donne à chaque utilisateur.
De la même manière qu'on a une note Uber,
il y aurait une note de désirabilité.
Voilà. Bon, alors, après, ils ont dit qu'ils avaient arrêté, en tout cas, après l'enquête de Judith du Portail. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a eu une tentation d'orienter les gens selon leurs revenus, selon leur sexe, selon leur... Enfin, voilà. Donc, du coup, ce qu'elle voyait dans le brevet, là, c'est que, clairement, un homme qui gagnait de l'argent était plus favorisé qu'une femme qui gagnait, au contraire, de l'argent allait avoir des malus, qu'en fait, pour le coup, l'algorithme était censé reproduire des schémas sexistes qui existent dans la vraie vie.
Clara Doyna-Schmelk.
Ouais, alors, pour une fois, j'apporterai une nuance plutôt positive. C'est que j'ai remarqué, à travers l'enquête que j'ai faite, qu'il y avait moins de racisme et de xénophobie sur les plateformes sociales que dans la vraie vie.
Expliquez-nous
oui,
ça.
Bah oui, par exemple, des
c'est
gens.
C'est juste un constat empirique.
C'est un constat complètement empirique mm-hmm. auquel je m'attendais pas du tout. Et en fait, des personnes, peu importe tes origines, tout ça, alors que dans la vraie vie, on a encore beaucoup de stéréotypes et de bon, bah, je vais pas aller avec quelqu'un d'une autre couleur de peau, d'une autre religion.
Alors, je suis pas du tout d'accord.
Mais c'est limité, hein, puisque c'est une expérience forcément limitée. Donc, c'est
un échelle de votre expérience. Voilà. Voilà. Mm-hmm.
Là où moi, je suis pas d'accord, c'est que déjà, Tinder communique les prénoms qui sont le plus matchés.
Ah, tiens. Ah,
voilà, donc on peut dire qu'il n'y a pas de Mohamed, de Babacar à l'intérieur. Enfin, c'est Thomas, Nicolas, Maxime, voilà. Et qu'ils ne communiquent pas les prénoms qui ont été le moins matchés. Mais moi, je suis sûre que dans les prénoms qui ont été le moins matchés, on est sur du Hicham, voilà. Et à propos d'Hicham, il y a un jeune homme qui a fait cette expérience que j'ai trouvé géniale sur Medium et qui a publié un texte. Mm-hmm. Il s'est inscrit sur Tinder en étant Hicham. 250 likes, donc lui, like 250 personnes. Zéro match. Il se dit, il y a un problème, il réfléchit à tout ce qui peut être bizarre, puis au bout d'un moment, il se dit, mais si je changeais mon prénom, qu'est-ce qui se passerait? Et donc là, il décide de refaire un compte en s'appelant Michael. Même photo, même description. 50 likes, 10 matchs. Donc, je crois pas que les applis réduisent le racisme.
Didier Rapaport, est-ce qu'il faut instaurer une appli sur le modèle des CV anonymes, sans photo ni prénom?
Ah ben, on peut toujours essayer.
On peut essayer.
Mais enfin, c'est un nouveau marché de niche.
C'est il sera vraiment de niche, je peux vous garantir. Parce que si vous pouvez pas voir la personne avec qui vous allez dater, il y a quand même un problème.
Mais c'est vrai que c'est terrible.
Parce que
cette
dans la vraie vie,
c'est terrible.
C'est terrible, mais malheureusement, c'est pas numérique. Non. C'est les gens. Ça n'a rien à voir avec le numérique.
C'est vrai et c'est faux dans le sens où les applis ne font que reproduire ce qui se passe effectivement dans la vraie
vie. Mais ça multiplie les fréquences.
Mais peut-être que ça multiplie les fréquences. Et puis surtout, ce qu'on peut voir aussi, c'est, et ça c'est Judith encore du Portail qui le dit dans son livre, il n'y a pas d'algorithme neutre. Ça n'existe pas un algorithme neutre. Donc on peut imaginer que par l'algorithme, on essaye de changer un peu le monde, qu'il soit un peu moins sexiste, qu'il soit un peu moins raciste.
On
un
pourrait
peu
très
moins
bien réguler, ouais.
Le monde numérique alors, pourrait-il être meilleur?
Ouais, mais alors là c'est pareil, hein, mettre de la morale ou de l'éthique dans les. Moi je trouve que les algorithmes doivent rester le plus neutre possible, parce qu'à partir du moment
jamais.
Où
ils
on
le sont jamais,
à
ils
le
sont jamais.
Essayer de trouver la neutralité et pas vouloir y mettre quelque chose de moral, parce que là ça peut mal se passer.
Ça rejoint ce que vous dites dans votre roman, Clément Benesch, l'utopie. Du réel. Quand on parle de morale, l'utopie n'est jamais loin.
Oui, c'est ce que j'appelle un peu l'utopie du direct. Et là,
direct,
pour le coup, je suis assez d'accord avec Didier. Je suis pas sûr que les algorithmes doivent changer des tendances qui existent déjà. Je pense qu'il y aurait quelque chose d'un peu douteux de ne pas respecter aussi les désirs des gens. Néanmoins, là où je parle de cette utopie du direct, c'est aussi en faisant allusion. On me disait que j'étais un peu du 19e. Là, je vais citer un roman de 1932 qui est Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley.
Début 20e, vous faites des progrès.
Début 20e. C'est un monde où les gens sont assaillis de mantras. Par exemple, celui qui dit « Ne remettez jamais à demain le plaisir que vous pouvez prendre aujourd'hui. » Et donc, c'est ce qui fait qu'en fait, les gens ont tendance à aller l'un vers l'autre et à coucher ensemble dès qu'ils ressentent une nuance de désir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un des personnages commence à se dire que c'est pas normal. Et il se dit... Et si j'essayais l'effet que pourrait avoir la répression de mes impulsions? Et il essaie de se dire qu'est-ce qui se passerait si je résistais comme ça. Et on peut aussi se dire que les applis tendent vers aussi ce monde où le désir est exaucé aussitôt.
Il y a aussi le risque de ce qu'on pourrait appeler peut-être la malédiction Netflix. À force d'avoir trop de choix, on est incapable de se décider. De la même manière qu'on peut passer une soirée entière à hésiter sur la série qu'on va regarder, on peut passer des heures et des heures à swiper sans finalement jamais faire un vrai rendez-vous, René Grezard?
Ben, moi, ce qui revient très souvent, en fait, je pense qu'il y a aussi quelque chose sur les applis, comme toute chose dans la vie, et je pense que les applis jouent quand même beaucoup là-dessus. Ça peut être addictif. Et ce qui est addictif, c'est l'ego boost, en fait. Non, mais c'est aussi la réassurance, la confiance en soi.
Dans les likes sont très narcissiques.
Voilà. Et ça, c'est purement les plateformes, puisque dans la vie réelle, il y a moins ce phénomène d'ego.
Oui, c'est vrai.
Bah, personne ne va vous dire chaque jour.
Il existe un peu, mais là, c'est vrai que les gens ont ce truc où ils racontent tout ce mois. Enfin, c'est un truc qui revient super souvent, qui s'inscrivent, ils se désinscrivent, et ils vont être aussi dans quelque chose où dès que ça va pas très bien dans le nouveau couple qu'ils sont en train de former peut-être sur Tinder ou sur Appen ou sur Wands ou je ne sais quoi, ils vont retourner sur l'appli pour refaire des matchs et se dire ah bah là ça va mieux, comme il y a quand même des gens qui m'aiment bien. Donc en fait il y a quelque chose, moi pour le coup je vais vous dire, je ne juge pas, je suis là pour comprendre. Mais ça, c'est le truc que je trouve un peu triste. C'est que, en fait, c'est un gouffre à angoisse, je trouve, en fait, ces applis.
Un auditeur va dans votre sens qui nous écrit: beaucoup de gens pensent qu'en accroissant le nombre de rencontres potentielles, les sites permettent de mieux rencontrer la personne, mais l'effet catalogue empêche souvent de s'engager dans une relation donnée. Plus on a le choix, moins on s'engage.
Je vais vous dire, je suis assez d'accord. Je pense que, le monde digital, il a 30 ans. Les sites de rencontres, ils ont 20 ans pour le web, ils ont quelques années pour le mobile. On n'est qu'au début. Il y a beaucoup d'imperfections, il y a beaucoup de choses à arranger. Et moi, je souhaite vraiment, dans le futur, essayer d'apporter aux gens un service de rencontre le plus pertinent possible pour eux.
Vous avez en tête une amélioration qu'il faudrait, par exemple, apporter à votre outil, l'application Appen?
Oui, j'ai plusieurs choses en tête. Alors, par exemple, je peux vous dire que vous n'avez jamais vu de swipe sur Appen.
Oui, parce que c'est géolocalisé, encore une fois.
C'est à dessein. Non, il n'y a pas le swipe, parce que nous, on considère qu'à partir du moment où on peut jeter un profil à la poubelle d'un revers de la main, on jette une personne, en fait, à la poubelle. Et là, on l'objectivise. Et si on la rend objet, on devient un site de... C'est le product by design. Hein.
Mais pour autant, il faut se liker l'un l'autre.
Oui, Par exemple, il y a ça, mais dans l'avenir, par exemple, je considère que aujourd'hui, le digital, plus de 80%, enfin, j'ai plus le chiffre en tête, c'est de l'image. Mmh. On est dans un monde qui est un monde total d'image, tout digital confondu. Donc, je trouve que sur les sites de rencontres, il y a trop d'images. Et par exemple, une chose qu'on va faire très bientôt, c'est qu'on va permettre d'adresser à quelqu'un avec qui on n'a pas encore matché du texte. Parce que il faut pouvoir s'exprimer. Parce que l'expression, c'est pas simplement la couleur de ses yeux, c'est aussi la qualité de ses mots.
C'est un exemple. J'aimerais qu'on dise quand même quelques mots sur les données personnelles. Que font-elles de nos données personnelles, ces applications de rencontre, Didier Rapaport?
Je vais être très clair. Chez nous, la ligne, on parle de business, la ligne monétisation des données personnelles est égale au zéro absolu.
Bon, Tinder, par exemple, propose des publicités ciblées en fonction, évidemment, des données. On peut penser, René Grezard, que Tinder en sait plus sur moi que mes amis et ma famille?
Oui. Bah oui, bien sûr. Mais bon, ouais, du coup, je la cite beaucoup et bon, les gens qui me connaissent savent que c'est une amie par ailleurs, donc je vais la reciter. Ouais. Mais Judy Duportail a fait un truc qui est super, donc je vais le redire.
Je précise qu'elle devait venir. Hein, L'amour sous algorithme, c'est l'auteur de ce livre.
Elle a demandé à Tinder ses données personnelles finalement. Et donc du coup, elle en a fait un article pour le Guardian. Et quand elle a demandé à Tinder ses données personnelles,
elle a reçu 800 pages.
800 pages. Mmh. Donc en fait, oui, effectivement, il y a peut-être possibilité que Tinder en sache plus.
Vous pensez que les utilisateurs de ces sites et de ces applis y pensent sincèrement quand ils s'inscrivent?
Qu'on est complètement inconscient, mais tous, enfin, il y a les gens qui sont conscients, je pense, sont assez rares. Ouais. Mais c'est pareil
sur
Facebook.
Ça, c'est la dissonance cognitive. Hein.
Ouais, c'est pareil sur Facebook, c'est pareil sur Twitter, c'est pareil sur Instagram.
Merci. C'est pour ça que tous les utilisateurs ne sont pas égaux.
C'est-à-dire qu'en fait, on parle de data personnelle quand on parle des sites de rencontres. C'est pareil pour Google, c'est pareil pour tous les services.
Mais là, c'est des données encore plus intimes.
On est complètement inconscient, Clément Bénèche.
Complètement inconscient.
Ce que disait René Grezard à l'instant, on est complètement inconscient de toutes ces données qu'on offre.
Bah écoutez, moi j'ai l'impression que effectivement on nous fait assez peur avec ça. Personnellement, je crois que quelqu'un qui me connaît personnellement et qui connaît un geste, une réaction que je pourrais avoir par rapport à une situation me connaît bien plus que quelqu'un qui connaîtrait une somme ou une liste de mes goûts ou quelque chose comme ça. Ça me paraît très artificiel en fait comme mode de connaissance des gens.
Non mais la question c'est qu'est-ce qu'on en fait après. Qu'est-ce qu'on en fait?
Oui, qu'est-ce qu'on en fait, mais
quelle connaissance on a de soi? Il y a différentes connaissances de soi.
Oui, mais si on donne de soi des choses très importantes, ça nous regarde. Moi j'ai l'impression que ce que je montre sur les réseaux, ça reste quand même C'est en surface. C'est parcellaire. Je me trompe peut-être. Mmh. Peut-être que je suis très naïf d'ailleurs.
J'aimerais qu'on termine avec des conseils pratiques, peut-être de choses à conseiller ou à déconseiller aux utilisateurs de ces applis. René Grezard, par exemple, quand on veut signifier à son interlocuteur qu'on veut rigoler dans un message, est-ce qu'il vaut mieux dire uhu, ihi ou oho? Vous y avez consacré un papier délicieux dans Rue 89. Merci. C'est dingue, non? Qu'est-ce que ça veut dire uhu dans une discussion numérique?
Mais en fait, c'est un sujet qui nous a intéressé parce que j'avais une copine qui était en train de flirter avec un type et en fait, d'un seul coup, le type a dit ihi. Et donc là, elle a dit, mais bah, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est très bizarre ce i. Et
en ça fait descendre la température érotique.
Voilà, ça
tout
fait descendre
suite,
la température érotique. Et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, on ne riait pas tous en ligne de la même manière. Moi, je suis très expansive. Je crois que comme ça, c'est vu un peu aujourd'hui. Donc, j'ai tendance à faire des AA à rallonge.
En majuscule.
En majuscule, bien évidemment. tandis que des gens plus réservés vont dire i ou u. Et en fait, donc, du coup, c'est vrai qu'en fait, ce que ça dit, c'est que quand on s'exprime à l'écrit aussi, on transpire des choses. Voilà. Mais c'est très beau, moi je trouve ça super joli.
Et enfin, lol, on évite lol?
Mais en fait, il n'y a rien à éviter, tout est permis.
Un conseil pratique, Clara Doinach-Melk.
Peut-être préserver la dimension épistolaire des échanges, c'est possible.
Donc, et écrit, et se laisser la part de hasard. C'est atroce.
Se laisser la part de hasard, même si on rencontre à partir d'une plateforme, laisser après l'expérience se développer de manière beaucoup plus hasardeuse et spontanée.
Et comment se sortir poliment d'un rendez-vous raté? Né après une rencontre sur les réseaux sociaux.
Bah là, justement,
ou sur une
c'est
appli.
Le risque parce que ça donne l'impression qu'on a constitué un dossier, qu'on s'est convenu l'un à l'autre et qu'il y a une obligation de résultat. Bah, tout simplement dire bon, bah écoute, merci, à bientôt.
Je vais acheter des cigarettes et ne jamais revenir.
On me file le coup du paquet de cigarettes, voilà. J'achète des cigarettes et puis on revient plus. C'est cinématographique.
Clément Bénèche, un conseil pratique?
Un conseil pratique?
Non, vous n'êtes pas obligé.
Non, c'est trop loin de moi.
Rester soi-même, être ouvert et rester soi-même.
René Grezard.
J'aimerais juste dire quelque chose qui me semble super important, parce qu'à force de recueillir ces témoignages, on en a bien une centaine, je commence à comprendre un truc, c'est que je crois que le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un sur une appli, c'est d'être honnête. Mais l'honnêteté, en fait, c'est pas seulement avec les autres, c'est aussi avec soi-même. C'est de savoir ce qu'on vient chercher sur l'appli. Si on a envie juste
de sexe,
il n'y a pas de problème, mais il faut être honnête avec soi-même et pas dire non, moi je viens chercher l'amour alors que je viens chercher. Parce qu'en fait, c'est ces dissonances-là qui créent des déceptions. C'est les gens qui disent non, moi je cherche pas l'amour, hein, je cherche juste un peu de sexe, alors qu'en fait ils cherchent l'amour. Et du coup, en fait, quand ils rencontrent la personne qui, elle, cherchait du sexe et avec qui il était convenu qu'on allait juste avoir du sexe, eh ben, il va y avoir un problème. Et donc, du coup, moi je pense que l'honnêteté, c'est quand même la meilleure des choses.
Elle est là la marge de progression, puisqu'on le disait, hein, ces pratiques numériques ont 20 ans. Dans les 20 prochaines années, peut-être ça peut évoluer sur ce terrain-là.
Voilà, et puis je pense qu'il faut pas avoir peur d'assumer qu'on a envie d'amour, il y a pas de problème. C'est beau d'avoir envie d'amour, faut pas avoir de problème à assumer qu'on a envie de sexe, c'est bien d'avoir envie de sexe. Tout est très bien, la vie est belle.
Et ce sera le mot de la fin.
Tête à demi penchée, faisant une moue dubitative. Rêve dans le semi-remorque. Les fous prennent tous les risques. Même en temps de crise, les effets de l'adrénaline me défendent mes affaires câlines. J'ai pas idée combien l'accès au palier va me faire pâlir de vertige. Mais ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. Les vertiges. Donc ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. À l'horizontale, je te propose qu'on à l'horizontale, on pourrait peut-être à l'horizontale. À l'horizontale, à l'horizontale, je te propose qu'on à l'horizontale, on pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale. Tremper ses lèvres ou tempérer la fièvre. Tremper ses lèvres ou tempérer la fièvre. J'aime ta tête appuyée sur ma clavicule, légèrement tournée vers ma nuque pour que mes yeux te bougent. Parce que ta bouche coule parfois jusqu'au bout de mon menton et m'embrasse très tendrement. Avec toi j'ai tout mon temps, les bras m'entourent mais t'entourent. Je ne dis rien car ça me va bien d'être envoûté par tes tentacules. J'ai pas de fascicule pour savoir comment m'a donné à cette sainte donation de nos corps entremêlés. Faudrait-il faire attention à l'horizontale? Je te propose qu'on à l'horizontale, on pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale, à l'horizontale, je te propose qu'on à l'horizontale. pas tremper, c'est pas que pour la scéno. Moi je suis polisson, tu me regardes en souriant. Le baiser a fait le beau car je vois bien comme il t'a eu. Je suis rentré sans frapper, c'est une mauvaise habitude. L'approche a cédé à l'accroche qui s'est agrippée sans litige. À plus tard, on se rappelle. Si je te crois, je te connaîtrai. J'ai même espoir qu'on se reconnecte.
À l'horizontale, c'était Aloïse Sauvage sur France Inter. La fin de l'émission approche. J'ai une dernière question à poser à mes invités.
Le débat de midi sur France Inter.
J'aimerais connaître un sujet sur lequel vous avez changé d'avis. Question rituelle dans cette émission. Et on démarre avec vous, Didier Rapaport.
Presque impossible de vous répondre parce que changer
d'avis... Vous
changez
jamais d'avis. C'est...
Non.
Tous les jours.
Parce que changer d'avis, c'est un principe de fonctionnement chez moi. Donc, j'ai des positions qui évoluent sur tous les sujets. Et lorsque, par exemple, dans ma vie professionnelle, je travaille avec mon COMEX, avec mes dirigeants, s'ils ne sont pas capables de me challenger, ils ne sont pas à leur place. Et je rêve tous les matins de changer d'avis. Donc, j'évolue en permanence.
Même question, Clara Doina Schmelk.
Alors, moi, de manière beaucoup plus miniaturisée, j'ai changé d'avis sur le thread de Twitter. Ouais. Vous savez, ces espèces de récits, de manière racontée en longueur, comme on déroule un fil, des bonbons en chewing-gum roulés en boule. Et en fait, au début, je pensais que c'était un peu un épanchement qui manquait d'esprit de synthèse et qui permettait pas vraiment le dialogue puisqu'on parle tout seul. Et finalement, en voyant des threads de personnes de d'autres pays, parfois dans d'autres langues, ça permet de relever des petites anecdotes racontées de manière assez riche.
Et de sortir de la dictature du message court.
Et sortir
court,
en fait
surtout.
Du message court qui parfois manque de poésie et de nuances parce que justement on doit faire court.
De la nuance.
Donc ça humanise Twitter.
Et de la poésie. Clément Bénèche, même question.
Bah c'est drôle parce que moi j'ai pensé aussi au thread, mais en fait moi je crois que là où j'ai changé d'avis, c'est que j'ai cru jusqu'à récemment que toute vertu pouvait croître jusqu'à l'infini. Et en fait, je le crois plus.
C'est-à-dire, il y a une limite à la vertu ?
Oui, je crois qu'au-delà d'un certain seuil, toute vertu tourne comme un lait. Alors, c'est évident avec la gentillesse. C'est évident avec la gentillesse. Chacun se rend compte qu'il y a un certain moment où, quand on est trop gentil, on se fait marcher sur les pieds. Mais je me rends compte que c'est aussi vrai, par exemple, de la bienveillance, et notamment dans le domaine de l'éducation.
Trop de bienveillance est dangereuse en matière éducative, dites-vous.
Devient malveillante, je crois.
Allez, la même question pour René Grezard. Avez-vous changé d'avis récemment, ou il y a très longtemps d'ailleurs ?
Il y a longtemps maintenant, vous savez, parce que quand vous nous avez posé la question, j'ai réfléchi, mais c'est beaucoup moins léger, je suis super désolée. J'ai changé d'avis sur la question du voile à l'école et dans les universités. J'étais très contre avant, en me disant que quand même...
J'ai failli prendre cet exemple.
Les révolutionnaires s'étaient battus, que voilà, les soutanes, je sais pas quoi. Et puis en fait, j'ai fini par me dire que ce qui était intéressant, c'est que quoi qu'elles fassent, les femmes sont toujours jugées. Qu'elles soient voilées, qu'elles soient en mini-jupe, on les fait toujours chier, quoi. Et donc du coup...
Et puis surtout, en fait, moi, je me suis dit que c'était un marqueur affectif plus que religieux, et il y a des vrais problèmes.
Et ça méritera un autre débat. Un grand merci à tous les quatre. Les références vers vos livres, articles ou applications sont à retrouver bien sûr sur le site de France Inter.